Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 1, et nous allons lire les versets 18 à 25. Matthieu, chapitre 1, les versets 18 à 25, et voici la parole de Dieu. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils aient habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie « Dieu avec nous ». Joseph, s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point, jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Et c'est la parole de Dieu. Nous poursuivons donc notre étude que nous avons commencée dimanche dernier dans cet évangile de Matthieu. Nous avons vu la semaine dernière la généalogie de Jésus-Christ avec la signification et l'importance des noms qui sont donnés au Seigneur Jésus-Christ. Et Matthieu continue donc son récit avec la naissance. Le texte commence, verset 18, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Mais quand on lit bien ce passage, on remarque qu'en réalité, on n'est pas encore en train de parler de la naissance de Jésus, mais c'est plutôt l'histoire de la conception virginale de Jésus quand le Fils de Dieu se fait homme, quand il devient homme. L'Esprit de Dieu forme l'enfant dans le ventre d'une vierge. L'ange de Dieu dit à Joseph et à Marie tout ce qu'ils doivent savoir pour prendre soin de cet enfant qui va naître dans la famille quelques mois plus tard. Le récit de Matthieu décrit bien plus qu'une simple naissance. Et en fait, le terme que Matthieu utilise, qui est traduit par « naissance », n'est pas le mot ordinaire pour « naissance ». Si on traduisait littéralement, Matthieu dit ici « l'origine de Jésus-Christ est ainsi ». Et Matthieu écrit donc pour que ses lecteurs connaissent l'origine et la conception miraculeuse de Jésus. Il raconte l'histoire du point de vue de Joseph et c'est quelque chose de logique, on l'a vu un petit peu la dernière fois. C'est à travers Joseph, son père adoptif, que Jésus reçoit les qualifications. C'est par Joseph qu'il est décrit comme le fils de David. Et cela remplit la promesse qui a été faite longtemps avant, qu'Israël aurait un roi semblable à David qui gouvernera le peuple avec justice. On retrouve cette promesse en 2 Samuel 7, versets 11 et suivants, par exemple. Et un peu plus tard, Dieu avait donné à Jérémie cette annonce, cette promesse en Jérémie 23, les versets 5 et 6. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. » Il règnera en roi et prospérera, il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En son temps, Juda sera sauvé, Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera, l'Éternel, notre justice. Et les Israélites ont connu beaucoup de rois, surtout des rois mauvais, en attendant ce libérateur qui serait issu de la lignée de David. Et ils auraient pu connaître un millier de générations de déception si rien n'avait changé. Mais il y avait des indices que Dieu était à l'œuvre, que Dieu était en train d'orchestrer des choses et qu'il amenait l'histoire à son point culminant. Au temps de Marie et de Joseph, la lignée de David avait montré son incapacité. Cette lignée qui était appelée à gouverner Israël était décimée, elle était presque invisible. Mais Matthieu montre que Jésus est bien de la lignée de David, mais il n'est pas de la chair de David. Il est conçu par l'Esprit Saint. Les promesses qui ont été faites à la lignée de David montraient que Israël avait besoin d'un libérateur, d'un roi qui serait fort, qui serait intrépide, d'un guerrier qui serait prêt à combattre ses ennemis, d'un homme qui aimait Dieu, qui aimait son peuple plus que sa propre vie. Malheureusement, l'histoire d'Israël est une triste répétition d'un roi mauvais qui suit un autre roi mauvais, d'un roi défaillant qui suit un autre roi défaillant. La chair humaine ne pouvait pas et ne peut pas délivrer le peuple de Dieu. Ils avaient besoin d'autre chose. Ils avaient besoin de quelque chose de différent. Et cette leçon est toujours la même. Aucun roi, aucun prophète ne peut délivrer. La chair et le sang par eux-mêmes ne peuvent pas sauver. Aucun politicien, aucun médecin, aucun enseignant, aucun prédicateur, aucun père ou mère ne peut délivrer l'être humain de son esclavage au péché. Mais Matthieu nous dit que Dieu a orchestré la délivrance qui était nécessaire. Et puisque Dieu utilise souvent des noms pour révéler ses desseins, il donne à cet enfant qui doit naître deux noms. Le bébé est appelé à la fois Jésus et Emmanuel. On l'a déjà dit la semaine dernière, Jésus signifie « Dieu sauve, l'Éternel sauve ». Et le nom est donné, comme l'ange le dit à Joseph, parce que c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Emmanuel signifie « Dieu avec nous ». Et cela accomplit une promesse. La naissance de Jésus, Matthieu nous dit, a eu lieu pour accomplir ce que le Seigneur avait dit à travers le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Et Matthieu cite le prophète Ésaïe au chapitre 7. Mais cela vient comme une surprise, parce que les gens attendaient un fils de David, un descendant de la lignée de David. Ils n'attendaient pas Emmanuel, Dieu avec nous. Peut-être que personne n'avait vraiment compris la prophétie, mais une prophétie a bien été donnée. Et le fait que l'être humain est sourd ne veut pas dire que Dieu ne parle pas. Dieu a parlé, il a donné cette promesse. Et la naissance de Jésus accomplit cette promesse et bien d'autres. Et la première chose donc que nous voulons souligner, c'est que le Seigneur Jésus est conçu par le Saint-Esprit. Joseph et Marie sont fiancés quand commence le récit de la naissance de Jésus. Matthieu précise qu'ils n'étaient pas encore mariés. Verset 18, Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils aient habité ensemble. Ils n'étaient pas encore un couple et ils étaient fiancés. Et pourtant, Marie se trouve enceinte. En Israël, les fiançailles étaient beaucoup plus importantes que les fiançailles de notre société occidentale aujourd'hui. C'était quelque chose de tellement contraignant, engageant, que Matthieu appelle déjà Joseph son époux, l'époux de Marie, verset 19. L'engagement était tel l'un envers l'autre que même s'ils n'étaient pas encore ensemble, tout le monde savait que Joseph et Marie allaient former un couple. Et voilà, ils n'étaient pas encore ensemble. Et le ventre de Marie s'arrondit. Son corps révèle qu'elle était enceinte. Et on peut imaginer que ça a été un coup dur pour Joseph. Il n'avait pas été avec Marie. Et selon les apparences, quelqu'un d'autre l'avait. Elle a été. Sa future mariée était enceinte. Et elle ne portait pas son enfant. Joseph nous dit, Matthieu était un homme de bien et il voulait une épouse, qu'il soit une femme de bien, une femme droite, honnête. Mais si Marie avait été infidèle avant même qu'il se marie, Quel genre de femme était-elle? Quel genre de mariage pouvait-il avoir? Sur tous les plans, que ce soit du côté moral, du côté émotionnel ou même du côté légal, Joseph, un homme de bien, avait raison de vouloir mettre fin aux fiançailles. Et comme je dis, c'est quelque chose de tellement contraignant que rompre les fiançailles à cette époque était équivalent à un divorce. Joseph, son époux, verset 19, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Cette détermination indique que Joseph était un homme juste, un homme droit, qui ne voulait pas faire partie d'un mariage corrompu. Et en tant qu'homme droit, il avait le droit d'annuler le mariage. Compte tenu des faits apparents, il était raisonnable pour lui de se séparer de Marie. Mais Joseph est aussi un homme rempli de compassion, rempli de miséricorde. Il aurait pu dénoncer Marie en tant que mère célibataire. Il aurait pu l'exposer à la disgrâce publique. Elle aurait connu des sanctions sévères de la part des autorités religieuses. Mais un divorce sans bruit pouvait préserver une partie de sa dignité. Oui, elle allait supporter les conséquences de son action, mais elle ne souffrirait pas l'humiliation publique. Et Joseph réfléchit et envisage un divorce secret, sans bruit. Et Dieu a laissé Joseph lutter pendant un temps pour résoudre son problème avant de lui révéler un plan qui était meilleur. Et Dieu travaille toujours dans ce sens, de cette façon. Il nous laisse faire des plans, puis il nous révèle la meilleure façon. Et quand cela arrive, on doit être prêt à changer nos plans, comme Joseph l'a été. On doit tester nos plans et nos desseins face à la volonté de Dieu, telle qu'elle est révélée dans les Écritures. Parfois, ce sont les circonstances qui se déroulent d'une manière qui suggère que ce que la volonté de Dieu peut être. Même si nos plans semblent être bons, ils doivent être prêts à être revus et modifiés. Dieu voulait que Joseph épouse Marie. Et il a envoyé un messager, il lui a envoyé un ange. Et on doit oublier l'image populaire qu'on veut nous présenter des anges. Les anges ne sont pas mignons, ils ne se spécialisent pas dans la romance. Non, ils sont capables de dire des choses qui sont effrayantes. Ils sont aussi capables de dire des choses qui sont réconfortantes. Leur apparition dans notre monde est un événement qui est rare, un événement qui est impressionnant, un événement qui compte. Les anges sont des puissants messagers de Dieu. Il y a tout un ensemble d'apparitions d'anges autour de la naissance de Jésus, parce que c'est un événement très important. Et ici, l'ange intervient pour le bien de Joseph, afin qu'il sache ce que signifie cette conception miraculeuse. Voici verset 20, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. » Chaque élément est important. En appelant Joseph, fils de David, il relie la conception à la généalogie de David que nous avons vue la dernière fois. Oui, l'Esprit-Saint est l'auteur de cette vie. Mais Joseph a une part à jouer. Ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme. L'ange reprend Joseph qui avait décidé de divorcer de Marie, de cette femme qu'il aimait. L'ange assure Joseph que la réalité ne correspond pas aux apparences. Et parce que l'enfant n'a pas été conçu par un homme, mais par l'Esprit de Dieu, Joseph peut épouser sa bien-aimée. Elle est aussi pieuse, aussi pure qu'il avait espéré. Mais quand Joseph épousera Marie, il doit adopter l'enfant comme son fils. Jésus a été conçu par l'Esprit de Dieu, mais Joseph devait l'adopter pour qu'il entre dans la lignée de David, parce que c'est de cette lignée que le libérateur d'Israël devait venir. Jésus est donc à la fois fils de Dieu et fils de David. Et à cause de cette adoption, Jésus va grandir dans une famille normale, dans une maison normale, avec un père et une mère qui vont l'aimer, qui vont le nourrir. Et Matthieu continue, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. L'Église universelle parle traditionnellement de la naissance virginale de Jésus, mais les évangiles soulignent plutôt la conception miraculeuse, la conception virginale de Jésus-Christ. Le miracle est dans la manière de la conception, parce que, autant qu'on le sache, l'accouchement, le processus de naissance s'est déroulé de manière normale. On parlerait plutôt donc de la conception virginale de Jésus. Il a été conçu par le Saint-Esprit. Deuxième point, le nom et la mission de cet enfant. Dieu annonce à Joseph que l'enfant à naître est un garçon et que son nom doit être Jésus, verset 21. « Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Jésus, comme on a dit, veut dire « Dieu sauve, l'Éternel sauve, le Seigneur sauve. » Il délivre son peuple de bien des manières. Il sauve et il délivre et il donne à manger aux affamés. Il guérit des malades, il réconforte les cœurs brisés. Beaucoup espéraient, comme on l'a souligné la dernière fois, beaucoup espéraient que le Messie sauverait Israël de la domination de Rome. Mais l'ange déclare le programme de Dieu. Jésus ne sauvera pas son peuple des ennemis physiques. Il sauvera son peuple de ses péchés. Le péché est la racine de tous les maux, de toutes les calamités. La calamité peut venir de différentes sources, d'un accident, une maladie, un oubli ou toute autre chose. Mais la cause profonde est le péché. Le péché, c'est être en conflit avec Dieu. Mais Jésus est venu pour sauver son peuple de ses péchés, pour que le peuple que Dieu a choisi soit réconcilié avec son Créateur. Cette naissance de Jésus marque le début du déploiement du salut de Dieu, et c'est l'accomplissement des promesses que Dieu a données, comme le souligne Matthieu. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Le prophète, et ici en l'occasion Ésaïe, a parlé comme Dieu l'a poussé. C'est Pierre qui le dit en 2 Pierre chapitre 1. C'est poussé par l'Esprit de Dieu que les prophètes ont parlé. Ce sont les paroles mêmes de Dieu qui ont été prononcées par un prophète, qu'il a annoncé pour préparer le chemin du salut de Dieu. La naissance de Jésus montre que Dieu est avec nous. De manière importante, Dieu est toujours avec nous. On ne pourra jamais fuir sa présence. C'est le psalmiste qui l'exprime ainsi dans le psaume 139, versets 8 à 10. Il dit « Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. » L'être humain peut essayer d'ignorer Dieu. Il peut essayer de renier Dieu, il peut essayer de maudire, il peut maudire Dieu. Mais Dieu ne disparaîtra jamais. Dieu est là. Son règne s'étend sur toute la création. Dieu est omniprésent. Et Matthieu dit qu'avec la naissance de Jésus, Dieu est entré dans l'histoire humaine d'une nouvelle façon. Il est avec nous. Il est là pour apporter la bénédiction à son peuple. Trois fois dans l'évangile de Matthieu, on entend dire que Jésus est avec nous, que Jésus est Dieu avec nous. On l'a ici au commencement, chapitre 1, verset 21, Il est Dieu avec nous. Jésus est Emmanuel, Dieu avec nous, pour sauver son peuple de ses péchés. Verset 21. Au milieu de l'évangile, nous entendons que Jésus est Emmanuel, Dieu avec nous, pour purifier son Église. Matthieu 18, verset 20, Jésus promet, « Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » On utilise souvent ce verset pour trouver l'assurance que Dieu entend lorsque nous nous réunissons pour prier. Et c'est vrai, c'est une réalité. Mais dans le contexte original, Jésus avait une prière spécifique à l'esprit, dans l'agonie de la discipline de l'Église. Quand un chrétien persiste dans le péché, quand il ne se repent pas, quand les dirigeants font face à une telle rébellion, Jésus est Emmanuel. Il est Dieu avec nous pour préserver la pureté de son Église. Et puis à la fin de l'évangile de Matthieu, Jésus est Emmanuel, Dieu avec nous pour élargir, pour faire grandir l'Église. Avant de monter au ciel, Jésus ordonne à ses disciples d'aller faire des disciples de toutes les nations. C'est une tâche immense. C'est pour ça qu'il leur dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Matthieu 28, 19 et 20. Il est Emmanuel, Dieu avec nous, pour donner à l'Église le pouvoir de faire des disciples et d'aller par le monde. Quel réconfort pour nous donc de savoir quand Jésus-Christ, Dieu, est avec nous. Quel réconfort quand on est seul, quand on est malade, quand on est accablé par la culpabilité ou effrayé par les circonstances. Jésus est Emmanuel, il est Dieu avec nous. L'histoire de la conception de Jésus est bien plus que l'histoire d'un homme et d'une jeune femme destinés à se marier. C'est surtout l'histoire de l'action de Dieu. Dieu est entré dans l'histoire humaine en déclarant qu'il est le Dieu avec lequel nous devons traiter. Emmanuel, c'est bien plus qu'un titre. C'est une déclaration que Dieu est entré dans notre monde et que nous devons compter avec lui. Il y a une façon juste et des façons mauvaises de le faire, mais c'est si vital que le Seigneur a pris soin de préparer son peuple pour en connaître, pour en saisir l'importance, et pour nous préparer à la venue de Jésus, à la venue d'Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu l'a annoncé, et il a donné un signe. Le signe d'Emmanuel a été donné des siècles auparavant, pendant le règne d'un mauvais roi de Juda, un roi nommé Achaz. Et c'est le troisième point, Achaz et Emmanuel. Je vous invite à relire les chapitres 7, 8 et 9 d'Ésaïe, où on voit cela. Au début du règne d'Achaz, deux rois voisins, Pekach, le roi des tribus du nord d'Israël, et Retsin, le roi de Syrie, ont envahi Juda. Et ils ont commencé à marcher vers Jérusalem, la capitale. Leur intention était d'aller installer un roi fantoche et de diviser Juda entre eux. Et Achaz, le roi de Juda, et le peuple tremblaient de peur. C'est ce que Ésaïe 7, les premiers versets nous disent. Achaz n'était pas un croyant, mais Dieu a envoyé son prophète Ésaïe pour lui offrir une bénédiction. Ésaïe a dit au roi, « Sois tranquille, ne crains rien. Le plan de l'invasion, le plan de faire du mal allait échouer. » Et Ésaïe savait que le roi Achaz était quelqu'un qui doutait. Et il ajoute deux choses. Il avertit tout d'abord et lui dit, « Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. » Ésaïe 7, verset 9. Et puis ensuite il promet, « Demande en ta faveur un signe à l'Éternel ton Dieu, et il te l'accordera pour que tu sois sûr qu'il t'accordera cette délivrance. » Mais Achaz n'a voulu ni du prophète Ésaïe, ni de son signe. Il ne croyait pas que Dieu le délivrerait. Au lieu de cela, Achaz avait son propre plan de délivrance. pour vaincre ces deux petites puissances, les tribunaux d'Israël et l'armée de Syrie, Achaz avait décidé de faire appel à la plus grande puissance de l'époque, la Syrie, le roi d'Assyrie. Mais Achaz n'était pas disposé à admettre son plan à Ésaïe. Il a utilisé un stratagème, il a utilisé un jargon religieux pour couvrir sa rébellion. Ésaïe 7, verset 12, Achaz dit « Je ne demanderai rien, je ne tenterai pas l'Éternel. » Bien sûr, il est vrai que nous ne devrions pas tenter Dieu, nous ne devrions pas exiger qu'il effectue des signes et des prodiges pour nous. Mais Dieu avait déjà décidé de donner à Achaz un signe de grâce, comme un don. Il savait qu'Achaz ne croyait pas en lui, alors il lui a donné un signe, il lui a offert un signe comme une preuve de son amour. Achaz disait, je ne veux pas traiter avec Dieu, je ne veux pas de cadeau, je ne veux pas de signe, je prendrai soin de mon propre destin. Mais Ésaïe lui répond qu'il allait recevoir un signe, qu'il le veuille ou non. Ésaïe 7, verset 14, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Et avant que cet enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, les deux rois qui attaquaient Achaz seraient détruits. Et après cela, Ésaïe continue. Il rajoute, il dit que Dieu amènera le roi d'Assyrie. Achaz avait l'intention d'engager l'Assyrie pour se battre pour lui, pour faire alliance avec l'Assyrie. Il avait invité l'armée assyrienne à venir combattre les envahisseurs et puis probablement à recevoir le butin des armées et un cadeau de la part du roi. On peut donc imaginer que lorsqu'Ésaïe a dit que l'Assyrie viendrait, cela a fait plaisir à Achaz, au moins au début. Mais Ésaïe continue. L'Assyrie viendrait et délivrerait Achaz, mais à sa manière. L'Assyrie viendrait comme une plaie de mouches, comme des abeilles qui envahissent le pays, comme une rivière qui déferle sur le pays. Dieu avait offert à Achaz une délivrance douce. Achaz voulait un puissant guerrier. Et Dieu dit qu'Achaz allait trouver un puissant guerrier. La puissante armée d'Assyrie viendrait balayer les envahisseurs. Mais l'armée assyrienne serait difficile à contrôler. Elle serait comme une inondation qui éclate les rives d'un fleuve. Et Ésaïe 8, versets 7 et 8 dit ceci. Voici, le Seigneur va faire monter contre eux les puissantes et grandes eaux du fleuve, le roi d'Assyrie et toute sa gloire. Il s'élèvera partout au-dessus de son lit et il se répandra sur toutes ses rives. Il pénétrera dans Juda. Il débordera et inondera. Il atteindra jusqu'au cou. Le déploiement de ses ailes remplira l'étendue de ton pays. Ô Emmanuel. Et quand on entend le texte, le nom Emmanuel en Ésaïe 8, on a l'impression que c'est mal adapté au contexte. Beaucoup de choses ont été écrites sur ces versets. Mais dans le contexte d'Ésaïe 7 et 8, il me semble que le sens est clair. Dieu est là. Dieu est là, il est présent, avec Achaz, qu'il le veuille ou non. Dieu est là. Achaz a rejeté la délivrance que Dieu apportait. Il a dit, je ne veux pas traiter avec Dieu, je veux travailler avec le roi d'Assyrie. Et Dieu lui a répondu, vas-y, travaille avec le roi d'Assyrie. Ensuite, c'est lui qui te fera travailler. Une fois que son armée viendra vers toi, elle balayera le pays, elle fera ce qu'elle veut. Mais après cela, tu sauras que je suis encore Emmanuel. Je suis encore là et que tu dois traiter avec moi. En d'autres mots, si Achaz refuse le don de Dieu parce qu'il ne veut pas d'Emmanuel, parce qu'il ne veut pas la présence de Dieu, il doit tout de même savoir que Dieu est là, que Dieu est présent. Dieu a offert d'être avec Achaz pour bénir, mais si Achaz rejette cela, cela ne change pas le fait que Dieu est toujours présent. mais qu'il sera présent pour le maudire. Et Dieu va laisser Akaz goûter à sa folie d'avoir invité l'armée assyrienne dans son pays. Ce signe d'Emmanuel enseigne que si nous rejetons la délivrance pleine de grâce de Dieu, et si nous travaillons à une délivrance par nos propres moyens, nous pouvons connaître une certaine réussite à court terme. Akaz a connu la délivrance au début, quand Assyrie a chassé les petits envahisseurs. Mais quand les Assyriens sont restés, ils ont fait d'Akaz leur vassal, leur serviteur. L'inondation est montée jusqu'au cou. Et c'est la même chose aujourd'hui. Quand on élabore notre propre délivrance, cela semble efficace pendant un certain temps. Mais alors, le problème arrive dans un tourbillon et l'eau monte jusqu'au cou. Certains trouvent leur délivrance en noyant leur peine dans l'alcool ou la drogue. Ça fonctionne pour un certain temps. Puis c'est la catastrophe. D'autres personnes recherchent la délivrance dans l'argent, dans une carrière, dans la santé, la force physique, dans l'éducation, dans les compétences, dans la famille, dans les réseaux de personnes connectées. Et ces choses fonctionnent toutes à un certain degré pour un certain temps. Mais aucune de ces choses ne peut égaler la délivrance éternelle, la délivrance pleine de grâce que Dieu accorde en son Fils. La prophétie originelle d'Emmanuel signifie que Dieu offre d'être présent pour bénir. Mais si nous refusons sa bénédiction, Dieu est toujours présent, mais il jugera. Dieu est toujours présent, soit pour bénir, soit pour juger. Et plus tard, Ésaïe souligne ce point d'une autre manière, au chapitre 8, dans sa prophétie, verset 14. « Si Israël a confiance en Dieu, il sera un sanctuaire. Sinon, il sera une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël. » Et le manque de foi d'Israël ne pourra jamais, n'aura pas contrer définitivement le plan de Dieu. La délivrance viendra par Emmanuel, par Dieu avec nous. Et nous devons avoir confiance dans cet Emmanuel qui est promis. Au chapitre 9 d'Ésaïe, car un enfant nous est né. Un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donné à l'empire de l'accroissement une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et la justice, dès maintenant et toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Et Matthieu nous dit que le côté béni de cette prophétie d'Emmanuel est maintenant venu. Dieu l'a accompli dans la naissance de Jésus. La promesse de délivrance militaire pour Akaz préfigurait quelque chose de bien plus grand. La promesse de délivrance était grande, était puissante, mais elle a principalement servi à préparer la seconde. Dans la promesse de délivrance pour Akaz, Dieu a offert d'être avec Akaz en signe. Maintenant, Jésus est Dieu avec nous en personne. Comme toujours, le dessein de Dieu est d'apporter la bénédiction par Emmanuel. Dieu a agi. Emmanuel est venu dans le monde. Jésus est venu dans ce monde, que cela plaise ou non. Certaines personnes répondent à la naissance de Jésus avec indifférence, comme Akaz était indifférent à la promesse d'Emmanuel annoncée par le prophète Ésaïe. Certaines personnes pensent que c'est une belle tradition, que c'est un conte amusant auquel certaines personnes croient. Elles peuvent même se réjouir pour des amis ou pour des voisins qui sont réconfortés de penser qu'il y a un pouvoir surnaturel qui veille sur eux. Mais une telle pensée manque complètement le point d'Ésaïe et de Matthieu. Emmanuel, Dieu avec nous, n'est pas une option religieuse. pour ceux qui choisissent de l'embrasser. Dieu avec nous est la vérité, que nous choisissions de l'embrasser ou pas. Certaines personnes aiment prétendre que des événements inconfortables ne se sont jamais produits. On a des personnes qui ont cherché à renier le meurtre de paysans ukrainiens par Staline, ou l'Holocauste, ou Hiroshima, ou la traite des esclaves. Il y a des groupes qui nient que de tels événements se soient réellement produits. D'autres préfèrent ne pas penser à ces tragédies. Mais la réalité, c'est que ces tragédies se sont produites. Et Matthieu nous dit que Dieu avec nous, Emmanuel, est venu dans ce monde. Cela s'est produit. C'est ce que Matthieu déclare. Dieu est avec nous. Il n'est pas distant. Il est venu dans ce monde. Et si nous croyons en lui, il est là pour nous bénir, pour nous sauver. Sinon, il est là pour nous appeler à la repentance. Mais si on rejette cela, il est toujours là. Mais ce sera pour juger. La délivrance que Dieu accorde est la seule délivrance qui fonctionne réellement. Jésus, notre Emmanuel, est notre seule espérance éternelle. Quatrième point, Joseph et la naissance de Jésus. Quand l'ange a fini de parler, Joseph se réveille et il croit. Et verset 24, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Il prit sa femme avec lui. Sa soumission à Dieu a été aussi puissante, aussi complète que celle de Marie qui s'est offerte comme servante du Seigneur. Joseph a refusé d'être conduit par la honte ou par la colère. Il a mis de côté son plan de divorce. Il a pris Marie comme son épouse. Et pour rendre la conception surnaturelle de Jésus parfaitement claire, Matthieu rajoute au verset 25, « Mais il, Joseph, ne la connut point jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. » On a là une belle image d'une foi vivante. Marie et Joseph ont écouté Dieu. Ils ont mis au silence leurs émotions, leurs peurs, leurs émotions de honte. Ils ont obéi au Seigneur. Pourquoi ? Parce qu'ils ont compris que Dieu est avec son peuple pour le sauver. Parce qu'ils étaient prêts à écouter leur Seigneur, quoi que les gens puissent penser ou dire. Et ils sont un exemple. Ils nous montrent comment écouter, comment obéir à la voix de Dieu plutôt qu'à nos impulsions. Cette partie de l'évangile, déjà au début de l'évangile de Matthieu, offre une image de foi, mais plus que cela, c'est un récit de l'intervention de Dieu dans l'histoire de l'homme. Le plan de rédemption du Père est arrivé au début de sa phase culminante. Jésus s'est fait homme. Le Fils de Dieu s'est fait homme. La prophétie de l'Esprit-Saint qui a été donnée à Achaz a mis en place le signe d'Emmanuel. Ce signe arrive maintenant à son accomplissement. Dieu s'est fait homme. Il est venu dans ce monde. Il est avec nous. L'Esprit a également façonné la vie dans le sein de Marie. Il a ému le cœur de Marie et de Joseph à accepter leur rôle dans cet acte divin. Et le Fils est entré dans notre monde. Est-ce que nous avons cru ce que Dieu a commencé à accomplir par la naissance de Jésus? Est-ce que nous avons cru à son salut? Est-ce que nous avons appris à soumettre nos plans, nos émotions à Dieu comme Joseph l'a fait? Est-ce que nous avons appris à lui donner nos cœurs et nos émotions comme Joseph et Marie l'ont fait? Est-ce que nous savons que Dieu n'est pas lointain, mais qu'il est avec nous? Il est avec son peuple pour le bénir à chaque saison de la vie. Il est là pour appeler à la repentance. Mais il est là pour aussi juger ceux qui refusent de croire en lui. Dieu est avec nous, il est entré dans ce monde en la personne de Jésus. Puissions-nous avoir la foi, la confiance, l'amour, l'obéissance pour recevoir les bénédictions qui viennent de Jésus-Christ, notre Emmanuel, Dieu avec nous, l'accomplissement des promesses que Dieu a faites tout au long de l'histoire. Que Dieu nous aide à méditer ces choses et qu'il bénisse sa parole à nos cœurs. Amen.